Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir comme militant de l'assiette Christophe Hay. Christophe est chef multi-étoilé. Il est originaire du Loir-et-Cher et se démarque notamment par sa cuisine gastronomique locale et engagée, son élevage de bœuf Wagyu ou encore son jardin potager dans lequel il puise tout au long de l'année. Sa renommée est aujourd'hui nationale, comme en atteste par exemple son titre de chef de l'année 2021 au Goemio et sa sélection parmi les 10 incontournables chefs engagés dans une gastronomie responsable en 2019. L'un de ses restaurants, la Maison d'à côté, est d'ailleurs en passe d'être labellisé Ecotable. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être à vos côtés. Et puis Ecotable, ça me fait tellement plaisir de pouvoir rejoindre cette grande famille que voilà, je suis honoré.
Merci, c'est gentil. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices, déjà, tu peux te présenter?
Oui, alors voilà, moi je suis originaire en fait du Loir-et-Cher puisque je suis né à Vendôme, dans le nord du département, et je suis d'une famille agricole, donc avec une ferme familiale depuis 5 générations.
Qui existe encore aujourd'hui?
Oui, exactement. C'est mon cousin en fait qui est en train de reprendre la ferme. Pour l'instant, on n'avait pas trop de liens sur la partie élevage avec la ferme familiale parce qu'en fait, cet élevage de Wagyu, c'est quand même un élevage spécifique qui demande beaucoup de temps. Et nous, la ferme familiale, on a aussi une partie céréale. Donc voilà, il fallait être vigilant dans ce sens. Aujourd'hui, avec mon cousin, on va essayer de développer aussi d'autres choses, hein, et notamment on va s'occuper des races anciennes de la région, donc notamment la percheronne, hein, puisqu'on peut pas proposer le wagyu sur ma partie bistrot, mais pourquoi pas faire un bœuf qui soit aussi intéressant pour nous dans la région. Donc voilà, on va essayer de faire aussi des choses sur la partie ferme familiale. Ce que je voulais juste vous expliquer, c'est qu'en fait, pourquoi aujourd'hui je suis hyper engagé et pourquoi aujourd'hui je suis attentif, c'est qu'en fait mes grands-parents à l'époque, donc là on parle des années 80, avaient des vaches laitières, et si pour certains ça vous dit quelque chose, on parlait à cette époque-là des quotas laitiers, et moi ce qui m'a marqué dans mon enfance, c'est de voir mes grands-parents qui travaillaient pour mettre le lait dans les égouts en fait, hein. Oui, parce qu'à cette époque-là en fait c'était ça, c'est que dès que tu dépassais un quota, tu jetais ton lait en fait, et ça m'a vraiment marqué parce que mes grands-parents finalement tellement fatigués de travailler pour rien, ils se sont séparés de leurs vaches laitières, et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Je m'étais toujours dit que le jour où je pourrais m'installer, je serai attentif justement à ces agriculteurs, à ces producteurs, et je serai un petit peu ambassadeur de leur travail et de leur savoir-faire. Et aujourd'hui, concrètement, quand on vient dans notre établissement, on est capable de nommer chaque personne qui ont participé à chaque produit qui va venir construire un plat. Ouais.
Ok, et donc ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que toi, limite la cuisine, c'était une histoire de famille, c'était une évidence dès le début.
En fait, ma maman était cantinière, donc elle travaillait dans un collège. Et c'est vrai que j'ai toujours été baigné avec ma grand-mère. À cette époque, à la ferme, c'était une vie totale d'une famille entière, en fait, hein. Le week-end, on se retrouvait, on mangeait sur des grandes tablées. Ma grand-mère avait aussi une petite partie élevage avec des volailles, des lapins, un potager magnifique, hein, parce que du coup, il y avait du fumier qui partait tout le temps dans le jardin. Donc, il y avait des légumes qui étaient superbes. Et oui, ça cuisinait beaucoup, mais ça cuisinait beaucoup sur le plaisir, en fait, hein, sur cet esprit familial le dimanche à se retrouver tous ensemble. On n'était pas des familles aisées, mais en tous les cas, on était tous souriants et tous heureux d'être là. Ouais.
Et toi, comment tu es venu à la cuisine?
Ben, mon papa, en plus, était boucher. Donc concrètement, j'ai été baigné dans les produits. Et puis, c'est vrai que j'aimais bien donner une petite main à ma maman en cuisine et à ma grand-mère. Donc finalement, je vais dire, dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être cuisinier. Ouais.
Ah oui.
Oui.
Et tu as immédiatement fait un lycée hôtelier après tes premières études ?
En fait, comme beaucoup de garçons, c'est les années collège, on est toujours dans une période où on fait un peu de bêtises. Voilà, moi, je faisais du skate, je m'amusais avec les copains. L'école, c'était un peu voilà, un moment où on s'amusait finalement. Et je n'étais pas le meilleur du monde. Et quand j'ai trouvé ma voie, je me suis dit, le lycée hôtelier, c'est une évidence pour moi. Je me suis inscrit au lycée hôtelier de Blois en me disant mais jamais ils vont me prendre quoi. Et en plein passage du brevet, je reçois mon courrier pour qui, stipulant que j'étais accepté au lycée hôtelier. Je vous dis ça parce que pour moi, je m'en rappelle comme si c'était hier et que pour moi, ça a été le déclic et que là, bah voilà, j'ai pu tout de suite me projeter sur ce métier de cuisinier. Ouais.
Et le déclic de la haute gastronomie, il s'est aussi fait immédiatement. Est-ce que tu t'es assez dit rapidement, ok, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est faire de la haute gastronomie.
En fait, ma vie est faite d'opportunités. J'ai fini mon lycée hôtelier. Mon prof m'a en fait mis en contact avec un chef qui s'appelle Eric Rettler, qui était à l'époque le seul chef étoilé sur Blois. Et qui était quelqu'un qui était passé par Guy Savoy et par la maison Bocuse. Et ce chef, ça a été, c'est mon père spirituel, ça a été mon déclic. C'est lui qui m'a emmené sur la voie des étoilés et c'est lui qui m'a permis de rencontrer derrière Monsieur Paul pour ensuite, démarrer avec lui à Lyon, partir ensuite à Orlando en Floride. Hein, donc une expérience aussi assez intéressante et notamment pour notre discussion d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis arrivé sur un sol américain où on a toujours l'impression que les Américains mangent mal et que les produits sont de mauvaise qualité. Et j'ai tout de suite eu cette volonté justement d'aller chercher des producteurs locaux. Et en Floride, il y avait aussi du maraîchage et c'était aussi une façon pour moi de montrer un peu qu'on pouvait faire des belles choses aussi là-bas. On avait beaucoup de produits français, bien entendu, parce qu'on représentait la gastronomie française. Et puis ensuite, je suis rentré en France parce que mon papa est tombé malade et que voilà, il fallait que je sois à ses côtés. Donc j'ai rejoint un groupe hôtelier sur Paris qui s'appelle le groupe BC. Et avec cette même volonté, en fait, on était déjà dans cette époque-ci, c'était en 2009, où là déjà je travaillais avec des producteurs bio sur le bassin parisien.
C'est toi qui impulsais cette dynamique ou tu as eu des mentors sur cette partie environnementale ?
C'est moi qui me suis construit dans cette dynamique. C'était le début un peu justement du tournant de ma vie de cuisinier finalement, puisque je travaillais beaucoup de produits organiques aux États-Unis. Et qu'on commençait gentiment à parler du bio en France dans ces années 2000 entre 2000 et 2010 là, et que voilà, je me suis dit que quitte à être dans un hôtel un peu on avait une clientèle qui était quand même pas mal internationale, puisque c'était des 5 étoiles proches des Champs-Élysées. Et je me suis dit que ça pouvait aussi montrer qu'on avait une vraie envie de faire une belle restauration et montrer aussi que finalement, sur le bassin parisien, on peut très bien se retrouver avec des jolis producteurs tout autour. Hein. Là, j'avais un jardinier qui était à Évreux, en l'occurrence, avec des livraisons de légumes 2-3 fois par semaine. Donc c'était chouette. Ouais.
Malgré le nombre de plats que tu faisais, le nombre de couverts, tu arrivais à avoir des producteurs bio.
Exactement, et on avait un brunch 100% bio le dimanche, donc on a okay. Voilà, on avait une vraie envie d'aller chercher les beaux produits en tous les cas.
Ok. Et ce déclic environnemental, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on ne peut pas parler de déclic pour toi. C'est quelque chose que tu as depuis petit et qui s'est développé au fur et à mesure. Est-ce que je me trompe ?
En fait, c'est exactement ça. Je pense que aujourd'hui, j'ai eu cette possibilité justement de pouvoir m'installer dans ma région natale et le déclic environnemental, il est vraiment venu de là en fait, hein, puisque j'étais chez moi. Je pouvais décider exactement de ce que je voulais et de ce que je souhaitais faire. Et on a commencé gentiment donc avec une cuisine locale, avec les producteurs. Et très vite, quand on est arrivé dans ce deuxième bâtiment, donc cette nouvelle maison d'à côté au 17 rue de Chambord, là par contre, ça a été le vrai déclic pour moi où je me suis dit maintenant, il faut qu'on fasse aussi attention à l'environnement.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'a convaincu ou c'est simplement que tu t'es dit c'est le bon moment pour le faire ?
Le déclic de ma vie, c'est surtout que j'adore la nature, ouais. Qu'aujourd'hui la Loire, c'est le seul fleuve en Europe qui a été classé. Qu'on est dans un milieu qui est hyper protégé avec une multitude d'oiseaux et cette nature qui est magnifique, et que je me suis dit que maintenant, bah, il fallait aussi qu'on soit attentif. Et ce bâtiment, bah, voilà, on a un bâtiment aujourd'hui qui est 100% électrique avec de l'énergie verte, hein, parce que c'était aussi important pour moi de signer un contrat avec de l'énergie verte et de stimuler justement et de les aider à progresser. On a pensé à l'isolation, on a pensé à toute la consommation, hein, puisqu'on a fait la cuisine avec Enodis avec que des produits en détection, hein, donc le fourneau c'est pareil, on est tout en induction. Toute la machinerie, c'est pareil, on limite la consommation d'eau, on limite la consommation d'électricité. On a des batteries compensatrices pour relancer le froid ou le chaud dans le restaurant. On trie nos déchets. Voilà, chaque personne sont vraiment impliquées et engagées dans l'équipe, et toutes les personnes qui nous rejoignent viennent également pour ça. Ouais.
Et justement, ça m'intéresse cette partie-là, cette partie équipe. Est-ce que tu arrives à recruter des personnes qui sont aussi sensibilisées que toi, ou c'est toi qui les formes ?
En fait, ce qui est, je pense que le déclic là de ces deux dernières ou des trois dernières années, c'est que tous les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui viennent pour ça en fait. Mmh. Ils viennent pour le jardin, ils viennent pour notre philosophie de la nature, ils viennent pour les poissons d'eau douce. Ils viennent pour tous mes engagements.
Et alors, je voudrais revenir un peu justement à la construction de tes différents restaurants. Donc, comment tu décides déjà de revenir ici dans ta région natale ? C'est une opportunité ? C'est toi qui as envie de te mettre à ton compte ?
En fait, sur Paris, j'étais bien. J'étais chef exécutif de ce groupe BC. J'avais trois établissements à m'occuper. J'étais en repos le samedi, dimanche. Voilà, j'étais plutôt heureux. Et puis un jour, Eric, mon premier chef, m'appelle. C'était en décembre 2013. Et Eric me dit, bah, y a une maison qui est en vente dans le département, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et puis du coup, on arrive dans ce village, visiter donc cet établissement. On est à Montliveau, donc c'est un tout petit village qui est entre Blois et Chambord, hyper nature. Et je me suis dit, mais oui, c'est là, il faut y aller. Donc finalement, bah, voilà, j'ai été séduit par ce lieu. Et on fait une proposition en janvier 2014 et on signe l'acquisition en avril 2014. Donc ça a été très très vite. J'avais cette expérience aussi parce que du coup le groupe BC c'est avant tout des assureurs. J'avais cette expérience aussi des chiffres et des business plans. Et finalement j'ai présenté un projet aux banques qui ont été séduites et tout s'est fait rapidement et naturellement quoi.
Alors qu'à l'époque t'étais pas étoilé.
À l'époque, j'étais pas étoilé. À l'époque, j'étais, je dirais même qu'à l'époque, j'étais pas connu. La seule chose, c'est que les locaux savaient très bien que j'étais de la région et que finalement, ils m'ont tout de suite soutenu. Et ça a été notre force dès le départ, c'est qu'ils sont venus très vite nous rejoindre. Et aujourd'hui, ils font partie de cette grande famille parce que voilà, ils me soutiennent, ils sont présents. Dès que j'ai un nouveau projet, ben, voilà, ils sont tout de suite là à me féliciter. Donc c'est ça aussi. Je pense que plus on est poussé derrière par nos grands fidèles, nos habitués, nos équipes, puis tous les politiques de nos régions, ben, ça nous emmène vers le haut. Et puis si en plus on a un équilibre familial qui est idéal, ben, on n'a plus qu'à dérouler, quoi.
Oui, bien sûr. Et alors, ce premier restaurant, il se crée. Rapidement, il y a un deuxième qui arrive. Est-ce que tu peux nous raconter ?
En fait, je parlais tout à l'heure de ma vie qui est faite d'opportunités. C'est exactement ça, finalement. Je me suis installé donc dans une première bâtisse. On avait refait un petit coup de déco pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est que je rachète un fonds de commerce 380 000 euros. J'investis 150 000 euros de travaux dedans. Et puis, on démarre comme ça un premier projet. On est 8. J'avais déjà 8 chambres et puis la partie restaurant. Hein, donc
t'as toujours voulu avoir une partie hôtellerie ?
Pour moi, c'était important et essentiel. On est à la campagne. On sait que quand on veut bien manger et se faire plaisir, derrière, reprendre la voiture, c'est toujours un peu compliqué. Et je voulais absolument avoir quelques chambres. Donc, pour moi, c'était l'affaire idéale, en fait, pour commencer cette aventure de chef propriétaire. Et on le voit, puisque finalement, bah voilà, cette étoile arrive à cette époque-là, le 5 février 2015.
Donc, un an après l'ouverture.
Bah, ça fait 9 mois.
Ah oui, ok.
Hein, donc voilà, c'est pour nous un boost de dingue. Et puis derrière, j'ai ce titre de grande demain au Goemio. Donc voilà, tout ça, ça nous a vraiment emmené vers le haut. Et fin d'année 2015, j'ai la communauté de communes du village qui vient me voir, qui me dit voilà, on voit que vos activités fonctionnent bien. On voulait venir vous voir parce qu'on a un local qui est un peu plus loin. Est-ce que ça vous dérange si on installe un collègue à vous juste à côté? J'ai dit, mais non, mais moi, ce bâtiment, il m'intéresse. Ah bon? Oui, ben moi, il m'intéresse. Il est beau et ça serait super. En fait, ici, c'était un bar PMU abandonné depuis 5 ans. Et ce qu'ils voulaient surtout pas, c'est que ça soit un promoteur qui rachète pour faire des appartements, pour garder vraiment un commerce dans ce village. Donc là, bah voilà, deuxième projet un petit peu plus fou, hein, pour vous parler un peu d'argent, parce que c'est important aussi d'échanger là-dessus. C'est que là, finalement, on investit 1,5 million dans ce bâtiment. On l'aménage complètement.
C'est-à-dire que tu le refais intégralement.
En fait, la communauté de communes est propriétaire des murs.
D'accord.
Et moi, j'ai investi dans l'aménagement du bâtiment, en fait. Hein. Donc, quand on sait que déjà, rien que la partie cuisine sur un bâtiment comme ici, ça représente 200 000 euros.
Ah oui.
Ici, on a 4 suites également. Une suite, en règle générale, c'est entre 30 et 40 000 euros suivant ce qu'on met comme matériaux. Donc, voilà, ça va très vite, mais... Dans la vie, je pense qu'il faut prendre des risques. C'est important. Alors, il faut qu'ils soient mesurés. Hein, et c'est vrai que quand on a tout qui est en bonne adéquation et qui fonctionne très, très bien, bah, finalement, il n'y a plus qu'à dérouler. Quoi, hein, et c'est vrai que de 8 au départ, déjà, dans, en ayant ce deuxième pôle, on est passé à 25. Et aujourd'hui, on est 37 dans le village. Quoi, donc, voilà,
et t'es passé... Alors... Pour qu'on comprenne bien, t'es passé de combien de couverts initial à combien de couverts aujourd'hui?
En fait, c'est pas une histoire de couverts. C'est surtout une histoire d'un lieu qui soit beaucoup plus paisible, avec une salle qui est un petit peu plus grande. Mais finalement, on fait toujours entre 35 et 40 couverts.
D'accord.
L'avantage que j'avais, c'est que dans le premier bâtiment déjà, je prenais mes commandes et il y avait des cuisiniers qui sortaient. Mais on avait une cuisine qui était cachée, donc on était un peu frustrés finalement. Là, aujourd'hui, j'ai la cuisine qui est dans la salle. On partage... toutes ces choses tous ensemble, et ma force aujourd'hui, c'est d'avoir une seule et même équipe. Hein, on n'a plus cette guéguerre entre la salle et la cuisine. On n'a plus ces portes battantes qui sont horribles et que moi,
je ne supporte pas.
Ça, c'est
hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que nous, on le rencontre souvent quand on fait des formations, etc. On voit qu'il y a toujours cette guerre entre la salle et la cuisine. Comment tu as fait justement pour qu'il y ait plus cette guerre-là?
J'ai démonté les portes. En fait, j'ai tout poussé. Nous, on est tous là, on travaille tous ensemble autour du fourneau, et que ça soit l'équipe de salle ou de cuisine. En fait, finalement, on est une seule et même équipe concentrée, avec cette volonté d'être attentif aux convives et de leur faire passer un moment unique. Et le fait d'être une seule et même équipe, ben, justement, on leur fait passer nos messages, on leur explique exactement ce qu'on fait ici. Comment on le fait, pourquoi on le fait, avec nos convictions, avec nos producteurs, avec nos engagements. Et quand on a enlevé ces portes d'une cuisine, bah finalement, il y a plus de débordement, finalement, puisqu'on maîtrise tout l'ensemble de ce qu'on fait. Il n'y a plus cette histoire de « ah bah tiens, t'as emmené l'assiette, mais là, elle n'était pas bien posée, tu ne l'as pas bien fait correctement ». En fait, on le fait tous ensemble. Donc, c'est naturel. Donc, il n'y a plus ces esprits de contradiction les uns des autres. Et il n'y a plus cette déconcentration, finalement, d'une personne de salle qui va venir derrière en cuisine et que du coup... bah étant donné qu'il est concentré en salle, bah finalement, il va faire un peu de bêtises derrière. Hein, il va se cacher derrière et puis il va faire un peu de bêtises. Là, finalement, on n'a plus du tout cette période-là. Et nous, on est concentré du moment où on arrive dans le bâtiment au moment où on repart. Tout le monde est concentré et tout le monde travaille dans le même sens. Ouais.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que tes cuisiniers viennent en salle?
En fait, voilà. Nous, on prépare. Donc, je vais prendre mes commandes et chaque personne qui a préparé le plat... vient l'apporter en salle avec bien entendu une personne de la salle également, hein, puisque c'est voilà, j'ai dit qu'on formait une seule et même équipe et on sert ensemble et le cuisinier partage son travail, ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, quelle association il a pu faire avec.
J'ai hâte de découvrir ça tout à l'heure parce que j'ai la chance de pouvoir goûter la cuisine de Christophe tout à l'heure. Donc là on est, quand est-ce que ça finit les travaux du coup dans ce bâtiment?
Ce bâtiment a été inauguré en juin 2016.
Okay.
Donc, avec tous les engagements que j'ai pu entreprendre autour. Hein, et ça, c'était aussi quelque chose qui était hyper important pour moi. C'était de limiter l'impact sur l'environnement, sur ce nouveau bâtiment. Et ce qui est chouette, c'est que chaque année, j'essaie vraiment d'aller chercher un élément indispensable à laquelle je n'ai pas pensé ou à laquelle je n'aurais pas pu trouver de solution. Et finalement, bah, chaque année, on arrive à trouver un nouveau truc. Donc, c'est plutôt super. Ouais.
Ça m'amène une question. Pour toi, c'est quoi un restaurant éco-responsable ?
En fait, ça va bien plus loin que, je sais pas, que l'impact qu'on peut avoir. C'est ce que je dis, ça passe par avant tout le respect. Et le respect, pour moi, c'est un point qui est hyper important. Donc, ça veut dire que si on respecte les convives qui viennent dans votre établissement, si on respecte ses équipes et si derrière, on respecte l'environnement, on a les trois points essentiels d'un établissement éco-responsable. Mmh. Et ça, c'est important. Un établissement éco-responsable, c'est pas qu'un établissement où on fait le tri des déchets, hein, parce que ça serait trop facile finalement. Un établissement éco-responsable, c'est surtout un établissement qui va maîtriser l'ensemble des éléments, et c'est pas que encore une fois limiter l'énergie, limiter les produits d'entretien, hein, puisque c'est pareil, je travaille avec Green Care aujourd'hui. C'est des personnes qui aussi ont mis et des produits éco-responsables, mais aussi les emballages qui sont des emballages recyclés. Aujourd'hui, tous les petits producteurs qui nous livrent, on leur fournit des bacs, ils nous livrent avec ces bacs, ils repartent avec ces bacs. Donc pas de carton, pas de polystyrène.
Même sur le poisson, t'as enlevé le polystyrène ?
Oui. En fait, Sylvain, aujourd'hui, il nous livre avec des bacs à poisson et il repart avec ses bacs à poisson, en fait. Donc voilà, toute cette partie est hyper importante. Et encore une fois, et là où j'insiste vraiment et où on a pu déjà échanger là-dessus, c'est les équipes. Aujourd'hui, ça rentre justement dans ces démarches éco-responsables. Parce que ces équipes, il faut les respecter, il faut les engager, il faut leur expliquer exactement votre volonté justement de limiter cet impact, et ils font partie de cette dynamique. Donc, les
équipes...
elles
sont l'image du restaurant, de fait, auprès des convives quand même.
Exactement. Et plus on est respectueux de ces équipes, et plus ils vont vous le rendre et plus ils seront engagés avec vous.
Est-ce que tu as un effet du coup sur le turnover ? Nous, c'est un point qu'on essaye de mettre beaucoup en avant dans nos formations, c'est le fait que quand on a un restaurant engagé, l'équipe se sent investie d'un projet qui est bien souvent plus grand que celui d'un restaurant, parce qu'il y a des valeurs fortes derrière et donc il y a moins de turnover.
Aujourd'hui, j'ai très très peu de turnover, très peu. Et l'avantage que j'ai concrètement, c'est que plus je suis engagé et plus j'ai de personnes qui viennent travailler avec nous et qui veulent travailler avec nous. Et ils veulent même pas travailler, ils veulent partager des moments avec nous. C'est encore plus fort. J'ai pas cette notion d'être quelqu'un de, je déteste crier, je déteste le bruit, je déteste les personnes qui sont énervées, et je suis quelqu'un d'assez paisible, et pour moi, cuisiner, c'est avant tout un plaisir, recevoir les convives, c'est un plaisir. Donc il faut pour le coup que chaque personne soit apaisée et chaque personne soit vigilante et bienveillante.
Et alors, t'as ta deuxième étoile qui arrive en 2019, si je me trompe pas, et t'ouvres aussi un autre établissement à Orléans. Tu peux nous raconter ça ?
Encore une fois, je reviens toujours sur ces opportunités. Finalement, j'ai un ami qui est dans l'immobilier sur Orléans qui un jour m'approche. On est en 2018, en janvier 2018. Il me dit, écoute, j'ai un super bâtiment sud d'Orléans. Tu vas voir, c'est super sympa. Et je pense vraiment que ça pourrait être sympa, ça pourrait être bien pour toi pour avoir une maison sur Orléans. Orléans, c'est une ville que j'apprécie énormément. On allait beaucoup faire nos petites emplettes avec ma maman dans cette ville, donc je la connais très bien. Ma sœur a travaillé sur Orléans, donc j'ai habité un petit peu aussi là-bas. Mes premières expériences étaient par là. Et en fait, je rachète tout simplement le clubhouse de plusieurs petites maisons qui étaient à l'époque des maisons de vacances et qui finalement se sont vendues en maisons d'habitation. Et donc ce clubhouse, c'est 750 mètres carrés, 2500 mètres carrés de terrain autour, sud d'Orléans, et j'achète ça 380 000 euros. Donc ça veut dire rien du tout finalement. Une bâtisse qui était assez agréable. Et là, pour moi, je me suis dit, c'est vraiment une opportunité justement de pouvoir avoir un deuxième pôle. Je suis propriétaire des murs, donc finalement, je suis chez moi. C'est le seul bâtiment où je suis propriétaire des murs aujourd'hui. Et je pense, pourquoi pas, à ma retraite. Donc voilà, c'était aussi une façon pour moi d'investir. Je garde mes engagements. Je déplace aussi des personnes de mon équipe de Montlivault, donc formées ici à Montlivault. Toutes les personnes qui sont à Orléans ont fait un passage obligatoire à Montlivault. Pour moi, c'est important. Il faut qu'ils s'imprègnent de notre philosophie avant de passer à Montlivault, à Orléans, excusez-moi. Et en fait, bah voilà, je les ai tous formatés à ma façon d'être et à ma façon de voir la cuisine. Et Marie, ma chef, bah c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 15 ans, donc je l'ai connue, elle avait 12 ans. Son papa, c'est un ami, et il est chef à Bercy, hein, et c'est Bruno. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pareil, avait cette vraie volonté. Bruno est originaire de Pithiviers, c'est un amoureux du jardin. Et Marie a toujours été fascinée par mon travail. Donc, quelque part, quand elle a fini son parcours à elle, bah, elle nous a rejoints. Et aujourd'hui, c'est ma chef à la table d'à côté à Ardon. Donc, voilà, c'est aussi... encore et toujours une belle histoire entre chaque personne qui m'entoure.
C'est génial. Comment toi tu fais pour gérer ton temps? Alors là tu as donc trois établissements, il y en a un quatrième qui arrive, on te le souhaite, en 2022, dont tu vas nous parler après. Comment ça se passe en termes de gestion du temps, de même d'équilibre, vie familiale, vie professionnelle?
En fait, ce qui est chouette, c'est que aujourd'hui j'ai une épouse et des enfants qui m'ont jamais bridé finalement. Quand j'ai dit à Emmanuel demain on part aux États-Unis, elle m'a suivi sans me dire quoi que ce soit. Je suis rentré en France pour des raisons familiales. Voilà, on est rentré. Maëlys est née aux États-Unis, Lizzie est née à Suresnes. Voilà, j'ai toujours eu une famille qui m'a toujours soutenu malgré le fait que je ne sois jamais à la maison. Hein. Aujourd'hui, la cuisine c'est ma vie, la cuisine c'est ma passion, mais plus que. Et ce que je veux, c'est surtout pour l'instant construire et continuer à développer ma cuisine et continuer à développer mes établissements. Et concrètement, bah, c'est vrai que souvent j'anime des petits débats comme ça avec la chambre de commerce qui me dit, bah, nous on n'arrive pas à travailler avec les petits producteurs parce que ils nous livrent pas. Bah ouais, mais s'ils nous livrent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah faut prendre sa voiture l'après-midi et aller chercher les produits. Et c'est là où c'est encore plus fort. Ça veut dire que moi, j'avais pas envie que les petits producteurs aient me livrent. Je ne discute pas de prix avec eux. C'est eux qui définissent leur prix. Et ça, c'est essentiel pour moi parce que chaque personne a besoin de vivre. Et c'est pas un camion qui me livre avec tous les produits à l'intérieur. Bah, voilà, je prends ma voiture et je vais l'après-midi chercher mes produits. Et le mardi, quand je suis fermé donc à Montlivault, bah, je passe du temps à Ardon avec mes équipes pour pouvoir peaufiner ce qui va pas, parler avec eux, essayer d'échanger. Et puis, j'y passe une ou deux fois l'après-midi aussi dans la semaine.
Ouais, donc c'est intense. À chaque fois dans tes établissements, tu as du terrain. Tu en as à Orléans, tu en as ici. C'était indispensable pour toi qu'il y ait un potager, voire plus, puisque tu as un élevage. Ça faisait partie de l'écosystème du restaurant?
En fait, quand on a démarré à Montlivault en 2014, j'ai pas eu des terres tout de suite dans le Val de Montlivault. Et on avait un ami d'enfance de la famille qui est de l'autre côté de Chambord et qui nous a fait le jardin dans son jardin, quoi. Donc c'était énorme. Je savais qu'il aimait bien ça et c'est lui de lui-même qui me l'a proposé.
Un potager.
Un potager, ouais. Mais dans c'était son potager qui s'est transformé en potager de la maison d'à côté. Donc c'était énorme. Je prenais la voiture le matin, je traversais Chambord, c'était magnifique. Donc ça allait très très bien pour démarrer. Et puis très vite, les anciens du village qui pouvaient plus exploiter leur terre dans le Val m'ont proposé des parcelles en fait. Donc j'ai démarré avec 800 mètres carrés et puis après on est passé à 1200 et puis aujourd'hui on a 3000 mètres carrés en bas dans le Val de Montlivault. C'était des petits jardins qui appartenaient à l'époque aux maisons de ce village, hein, parce que c'est souvent des maisons qui sont enclavées et qui ont très peu de terrain, donc ils avaient tous un petit jardin en bas et c'est comme ça en fait qu'on a déménagé justement nos activités de jardinage ici dans le Val. Et pour que chacun comprenne bien comment on a démarré cette activité, c'est qu'en fait au tout début c'était moi et Charles, mon second époque, Charles Bernabé qui m'a apporté aussi énormément. On allait jardiner l'après-midi, quoi.
Ah ouais.
Donc on était vraiment des barjots. on se tapait le service du midi et derrière on allait faire le jardin, on allait arroser parce qu'on n'a pas d'électricité en bas, donc à chaque fois je descendais la pompe. On montait les tuyaux, on courait l'après-midi et faire le jardin, quoi. C'était un peu n'importe quoi, mais c'est aussi des super expériences de vie et en tous les cas ce qui était super c'est qu'on a démarré comme ça et que très vite j'ai pu intégrer Alain Gaillard, hein, qui est aujourd'hui notre jardinier en chef, parce qu'on a deux jardiniers à plein temps et qui grâce à lui, on a pu démarrer cette permaculture. Quoi.
C'est quoi le pourcentage de produits qui est issu de ton jardin servi au restaurant aujourd'hui ?
Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on a réussi à faire, c'est qu'on a 3000 m2, qu'on est aujourd'hui en perma, qu'on est sur les principes de but. Donc on travaille sur but, ce qui nous permet justement d'optimiser la surface de production, de limiter ce qu'on appelle les entrants. Donc on limite tous les petits parasites et on est en autoproduction, on va dire, de mi-mai jusqu'à fin octobre. Donc je suis en autoproduction sur la partie restaurant gastronomique, parce que c'est ma priorité. Et puis après, sur la partie bistrot, on essaie de diffuser un peu le surplus de production. Et eux, après, ont une partie aussi de producteurs locaux.
Mais sur tous tes fruits et légumes de mai à octobre ?
Je ne parle pas des fruits et légumes, je parle essentiellement que des légumes.
D'accord.
Parce que le fruit, c'est un autre job.
Oui.
Par contre, ce que je fais là-bas en bas, c'est des choses un peu sympas. Je fais de la baie de goji, je fais de la groseille macro, parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on trouve très peu et que j'adore. On fait de la baie de mai. Voilà, on fait plein de petites choses comme ça qu'on ne trouve pas spécialement toujours dans les producteurs locaux. Et après, on a ici beaucoup de production de fraises, de framboises, de fraises des bois, de cerises, d'abricots, de prunes, de pommes, de poires. Voilà, donc il y a déjà plein de choses tout autour. Et c'est vraiment un autre job parce que là, les fruits, c'est voilà, à quatre pattes. On prend l'échelle pour les ramasser. Donc ça prend du temps, c'est énorme. Là, je parle vraiment que de la production des légumes, surtout. Les légumes, les herbes. Et puis ensuite, on a trois poivriers également, qui sont le poivrier de Sichuan, la baie de Timut et la baie de Sancho. Et qui fonctionnent très, très bien, puisque c'est des poivriers qui gèlent à moins 20. Et des moins 20 en France, il y a bien longtemps qu'on ne les a pas vus. Quoi.
Oui, oui. Donc le projet là, qui est déjà en cours, qui est en construction, c'est celui de Fleur de Loire, qui est à Blois, dans le centre de Blois. J'imagine que là encore, c'est une opportunité. Comment ça se passe ?
C'est qu'en fait, en décembre 2018, j'ai le propriétaire des murs...
Tout s'enchaîne quand même, 2018, ça a été...
j'ai le propriétaire des murs de ce bâtiment qui vient me voir et qui me dit... Voilà, Christophe, j'ai un projet d'un hôtel 5 étoiles sur Blois. J'aimerais bien que vous soyez sur ce projet et qu'on puisse s'associer ensemble. Le mot associé, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Je ne veux surtout pas m'associer à qui que ce soit et je veux toujours pouvoir être libre de mes décisions et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je lui dis, voilà, moi, je veux bien créer le fonds de commerce, mais en tous les cas, je veux pas m'associer. Et puis, voilà, on se tape dans la main, ça part. Il me dit, voilà, je vais te construire un bâtiment pour aller chercher ta deuxième étoile. En janvier 2019, la deuxième étoile arrive. Donc, finalement, va falloir qu'on pense à autre chose. Va falloir qu'on pense à autre chose. Mais en tous les cas, pour vous expliquer pourquoi et comment, c'est qu'aujourd'hui, plus on évolue dans nos maisons et plus finalement, si le bâtiment ne suit pas, derrière, on a un petit décalage. Ce qui se passe là avec le premier bâtiment où aujourd'hui on a notre bistrot, on avait 8 chambres dans ce premier bâtiment, on est en 3 étoiles en hôtellerie et que finalement, avec notre clientèle qui a évolué, les chambres ne sont pas toujours en adéquation et puis aujourd'hui, j'ai aussi envie d'aller encore plus loin dans mes engagements et que le fait de reprendre comme ça un bâtiment, de tout casser dedans et de tout repenser derrière, ça va me permettre justement d'être en adéquation sur déjà une partie hôtelière qui va passer en 5 étoiles, donc avec des chambres un petit peu plus spacieuses et encore mieux organisées, et puis d'aller jusqu'au bout de mes engagements. Ouais.
Et alors, là, tu as construit le bâti, c'est ça ?
En fait, c'est une bâtisse historique, D'accord. C'est une bâtisse du XVIIe siècle, qui à la base était construite pour être un hôpital, qui ensuite est passé sur un lieu spécialisé et puis qui a fini en EHPAD. Donc une bâtisse historique, qui est une bâtisse en U, mais en tous les cas un lieu où on découvre sa beauté. On a des charpentes en bateau inversé. Donc les charpentes sont magnifiques avec un travail de fou. Et puis on a une pierre qui est très belle. Donc finalement on a tout démonté la carcasse et on a gardé bien entendu toute l'ossature qui est superbe et qui est très saine.
On te souhaite une ouverture quand ?
Si tout va bien pour mes 45 ans, donc le 13 juin 2022. Je veux vraiment rester attaché à cette date 45 ans, on sait que dans une vie, c'est aussi un moment un peu particulier. J'aimerais que ça soit le 13 juin parce que je suis très attaché au numéro 13. Ma maman est née un 13 mai. On a habité le 13 à Cloix-sur-le-Loir, donc notre maison d'enfance. Et je veux vraiment être attaché à ça. Donc finalement, ce numéro 13, il me porte chance et je suis attaché à cette date. Donc on va tout faire pour qu'on puisse ouvrir le 13 juin l'année prochaine. Ouais.
Dans pas si longtemps, dans un peu moins d'un an.
Oui, tout va vite. Mais encore une fois, donc là, j'ai mis en vente nos établissements à Montlivault parce qu'on peut pas, on peut pas avoir.
Tu vas quitter ici.
On va quitter ici, oui. Je peux pas avoir plusieurs bâtiments, c'est pas possible. Et puis j'ai pas envie. Ce bâtiment à Blois, ça va être ma concentration ultime. Pour être franc avec vous, le propriétaire des murs a investi 15 millions pour refaire la bâtisse. Et moi, je vais investir 6 millions pour faire, pour créer le fonds de commerce, hein, pour faire tout l'aménagement intérieur. C'est le projet d'une vie. Hein, c'est un peu l'aboutissement en fait de cette vie de cuisinier. Et je vais avoir un lieu qui va vraiment être tourné vers la Loire et qui va être entièrement pensé par rapport à ma philosophie de ma cuisine. Donc, je pense que là, il fallait pas non plus s'éparpiller. Donc, mon niveau est en vente. Et je déménagerai. Les derniers services vont être ici fin avril 2022. On va prendre 4 semaines de vacances avec les équipes pour vraiment faire une grosse cassure entre les deux. Et puis vous retrouver le 13 juin sur ce nouveau lieu.
Alors, je voudrais te poser les deux dernières questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est est-ce que tu te considères comme un militant de l'assiette ? Est-ce que le terme militant te satisfait ?
Alors, j'aime pas les mots militants. Je suis pas un écologiste pur et dur. Par contre, j'ai des vraies convictions et j'ai des vrais engagements. Donc, je suis pas un militant. Je suis quelqu'un d'engagé. Je suis quelqu'un de respectueux parce que le mot respect est hyper important. Donc, je suis pas un militant. Je suis quelqu'un de respectueux.
Ouais. Ok. Ouais. Et ma dernière question, ce sera sur comment aller plus loin. Si t'avais une mesure à promouvoir aujourd'hui au niveau politique, ce serait laquelle pour aller plus loin dans l'alimentation durable ?
La biodiversité.
Et comment on fait ?
En fait, aujourd'hui, je milite avec l'agriculture locale et notamment sur des gros rassemblements comme AgriFood qui ont lieu chaque année à Orléans. J'essaie de leur partager mes convictions, hein, parce que c'est partager des convictions, c'est hyper important, et notamment aussi bien dans la profession que dans l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture, c'est quelque chose qui me touche aussi énormément. Donc, je suis fier aussi de vous dire que je suis également agriculteur, hein, puisque j'ai créé ma structure, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir 1,5 hectare de culture dans la ville de Blois. Et pour pouvoir avoir ces terres, il fallait absolument que je sois inscrit à la chambre d'agriculture.
T'as dû te former pour être inscrit ou pas particulièrement ?
C'est ma famille, c'est mes terres, donc finalement j'ai pu avoir cet agrément assez facilement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être à leur côté, hein, puisque je vais aussi rejoindre les JA, donc les jeunes agriculteurs de France. Malheureusement, je fais plus partie des jeunes puisque j'ai plus de 40 ans, mais je vais rejoindre cette association en tant que parrain parce que j'ai aussi envie de les aider. Les agriculteurs, on sait que c'est des gens qui sont très pris, qui ont très peu de journées pour eux, qui prennent très peu de repos. Ma grand-mère a vu la mer pour la première fois à 78 ans, donc si ça vous dit quelque chose, aujourd'hui, on prend beaucoup plus de plaisir à couper et à aller en vacances, et j'ai envie de les aider en fait, et j'ai envie de les aider aussi dans leur façon de cultiver, dans leur façon de voir l'avenir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a des agriculteurs qui ont aussi 700 hectares en Beauce et qui ont cette volonté justement d'aller chercher de la biodiversité et de ne plus traiter les champs comme on pouvait le faire avant. Hein, je pense que c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que plus on va faire de biodiversité dans les champs, et plus on va limiter les entrants. Donc ce qu'on fait nous à notre échelle en perma aujourd'hui, en travaillant sur but, eux vont le faire aussi sur les grosses exploitations, et c'est ça qui m'importe aujourd'hui vraiment.
De transmettre ton expérience.
Exactement. La transmission de l'expérience aussi bien sur des grandes cultures que sur du petit maraîchage est importante. Ouais.
Merci Christophe.
Bonne journée à tous.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe Engagé, le caribou volant. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.